Merci parce que tu es là, tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui se révèle à nous à travers ta parole. Et Seigneur, que tu nous aides à être attentifs, à recevoir ta parole, et Seigneur, qu'elle puisse produire du fruit, qu'elle puisse s'enraciner comme on l'a vu dans cette vidéo, qu'elle puisse s'enraciner en nous et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui peux produire cela en nous. Et Seigneur, on s'en remet à toi. Viens bénir mes frères et sœurs ici. Quel plaisir d'être avec eux. Et Seigneur, je te remets toutes choses. En ton nom, Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, et il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie en ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie ta vieillesse, de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et l'endroit qu'elle occupait ne la reconnut plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Ainsi donc, déclarez juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste ? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Qu'ils ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, mais l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libéré de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. De fait, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son propre Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les paroles les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Voilà. Je vous ai fait un message un peu particulier ce matin. Le but de commencer comme ça, en prêchant la parole, c'est de montrer la force qu'elle a. Trop souvent, on la lit rapidement, on y passe dessus, on dit « Ah oui, ça j'ai déjà entendu », et puis on ouvre la Bible et on la referme. Et ce matin, je voulais vraiment souligner l'importance de connaître la parole de Dieu, de l'aimer, de la retenir. Tu peux comme cette image qu'on a vue, où il y a cette graine qui tombe dans la terre, qui prend racine, qui pousse et qui porte du fruit. Alors bon, cette idée, elle vient pas de moi. C'est John Piper, en fait, qui, pour ceux qui connaissent, un pasteur très connu, qui vit en Amérique. C'est lui qui avait fait une fois un message en commençant comme ça. Et je ne sais pas si vous avez reconnu les textes que j'ai pris. Est-ce que vous en avez reconnu quelques-uns ? Et le psaume 1, ouais. Romains 8, oui. Romains 5, ouais, exactement. 1 Corinthiens 13, oui. Psaume 103. Psaume 103, ouais. Waouh, vous avez presque tous dit. Matthieu 6, 25 à 34, ouais, waouh. Bon, je vais aller me rasseoir, je crois que je ne sais plus. Il y avait oui, je crois qu'on les a tous dû. Non, il y a le psaume 16 encore. Donc, psaume 1, psaume 16, psaume 103, Romains 5, 1 à 8, Romains 8, Matthieu 6, 25 à 34 et 1 Corinthiens 13. Mais voilà comme... Ah, c'est gentil. Merci. Donc voilà, comme je l'ai dit, le but ce matin, c'était pas de vous montrer combien j'ai une bonne mémoire ou alors de vous montrer que j'arrive à faire comme John Piper. Mais vraiment, le but et l'importance pour moi ce matin, c'est de souligner cette importance de la parole de Dieu et l'importance de la connaître. En Colossiens 3,16, il est dit « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. » En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Jean 15, verset 7 aussi, il a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça ne veut pas dire que si on apprend la Bible par cœur, après on peut avoir accès à tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment, je crois que quand on laisse ces paroles demeurer en nous, eh ben ça nous transforme. Et dans ce sens-là, nos désirs s'accordent à ceux de Dieu. Ce matin, je voulais vraiment vous interpeller sur combien ce livre est précieux. Il y a des gens dans le monde qui sont prêts à mourir pour lire ce livre, qui sont prêts à mourir pour en posséder une Bible, et justement qui parfois la prennent par cœur, en se disant, mais si une fois je suis arrêté et que je suis mis en prison, eh ben je pourrais continuer à la méditer. Et moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce que je me dis, mais, et nous ? peux aller dans une librairie chrétienne ou en ligne et puis commander sa Bible, et puis on l'a. Chez moi, j'en ai je ne sais pas combien. Mais est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on se souvient encore de l'importance de la parole ? Est-ce qu'on réalise que ce livre est la parole de Dieu ? Qu'à travers ce livre, l'Esprit de Dieu nous révèle qui il est ? Elle nous donne tout ce qu'on a besoin de connaître sur Dieu, sur l'Évangile. Elle nous parle de l'Évangile, de cette bonne nouvelle du salut, qui, comme je l'ai dit dans Romains 5, nous dit que voilà comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Des fois, on ne sait pas, on dit « Ah, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» etc. Mais quand on regarde à ce que Christ a fait pour nous, voilà comment Dieu prouve son amour envers nous. Et comme il a dit aussi au Romains 8, et comme je l'ai dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh ! Quelle vérité on trouve dans ce livre. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que, en tout cas dans nos pays occidentaux, c'est que bien souvent, on a perdu cet amour pour la parole de Dieu. On est souvent attiré par une quantité d'autres choses. Et je m'inclus vraiment là-dedans. Je vois que même en tant que pasteur, c'est une lutte. C'est une lutte de ne pas simplement utiliser la Bible pour préparer un message, mais vraiment de se laisser imprégner par elle. Il y a aussi dans notre société tellement d'attaques contre ce livre. On aimerait des fois le voir disparaître, ou en tout cas dire que tout ce qu'il dit, ben, c'est du passé. Et peut-être des fois ça nous impacte et on perd un petit peu notre confiance par rapport à la Bible. On n'ose des fois pas trop se mouiller. Mais je crois qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas se laisser amener loin de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te poser ces questions. Quelle place laisses-tu à la Bible dans ton quotidien ? Est-ce que tu la laisses te parler, te toucher ? Est-ce que tu crois réellement à ce qu'elle dit ? Est-ce que tu prends du temps pour la méditer, pour l'apprendre ? Peut-être même en retenir des passages par cœur. Je me rappelle qu'un jour, je faisais de l'évangélisation et je discutais avec des musulmans. Il y en a un qui est arrivé comme ça et qui a dit « Le jour où les chrétiens connaîtront la Bible par cœur, on pourra discuter. » Ah, c'était bien envoyé. C'est vrai que la plupart des imams ça, connaissent le Coran par cœur. Alors, les moins épais, hein, mais quand même. Et c'est vrai que ça m'a interpellé parce que, quelque part, c'est vrai, quelle importance on donne à la parole de Dieu. Je crois qu'il y avait quelque chose de vrai dans le sens que, eh ben, si vraiment on croit que c'est la parole de Dieu, eh ben, nos vies devraient le démontrer. Souvent, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et pourtant, on n'est pas très enthousiaste à la lire, à la connaître. Et c'est un petit peu paradoxal. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à apprendre et à aimer la Bible. J'aimerais vous donner, quelque part, 10 bonnes raisons pour aimer et connaître la Bible. Alors, je vais passer assez rapidement, parce que l'heure tourne. J'ai pas allumé le... Voilà. Premièrement, apprenons à aimer la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu, comme je l'ai dit. Imaginez que tout d'un coup, vous avez une voix qui vient du ciel comme ça. Je suis sûr que vous seriez surpris, vous seriez peut-être enthousiaste, vous seriez étonné. Peut-être que vous prendriez une feuille et puis vous commenceriez à écrire ce que vous entendez, que Dieu vous dit. Et des fois, on s'attend un petit peu à ça. On aimerait que Dieu nous parle de cette manière. Et pourtant, Dieu... Il a fait mieux. Parce que si on entend une voix, peut-être qu'on retient des choses, puis on en oublie d'autres. Mais il a donné tout ce dont on avait besoin dans la parole. Des fois, je suis un petit peu gêné quand on dit « Ah, on va prendre un moment pour écouter Dieu. » Alors, je comprends bien, on va s'asseoir, on va prier, on va faire un moment de silence, on va essayer de recevoir une pensée de Dieu. Mais souvent, nous oublions que ceci est la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'on s'assoie et puis qu'on prie et puis qu'on écoute, qu'on prie et puis qu'on reçoive des impressions ou des idées qui, je l'espère, viennent de Dieu. Mais quelque part, on doit se souvenir que, on ne peut rien recevoir de plus que ce qui est écrit ici. D'ailleurs, ça serait grave, ça serait un problème. Je ne sais pas si Philippe serait très content que quelqu'un dise « Écoutez, voilà, j'ai reçu quelque chose de nouveau qui ne se trouve pas dans la Bible. » Et c'est souvent le problème quand on la laisse de côté. La Bible, si elle est la parole de Dieu, elle est ce qu'il y a de plus important au monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire dans notre vie que d'écouter la chose la plus importante au monde? Alors bien sûr, on doit travailler, bien sûr, on doit faire des choses, mais on arrive tellement à mettre du temps dans différentes choses. Prenons du temps aussi avec la parole de Dieu. Deuxièmement, une bonne raison, c'est parce que la Bible nous transforme et nous forme pour le service. Dans un livre que j'ai lu, Francis Chan, pour ceux qui connaissent, disait souvent on prend la Bible de la mauvaise manière. Souvent on la lit par culpabilité. Souvent on la lit peut-être pour le prestige, comme ça fait bien quand on peut sortir quelques versets bibliques. Ou alors justement comme ressource pédagogique où on s'en sert pour enseigner les autres. Mais on ne se laisse pas transformer par elle. Et moi j'ajouterais aussi pour le wellness. Des fois, je ne sais pas, on cherche la Bible comme ça, on l'ouvre au hasard, puis on espère que ce sera une parole d'amour qui nous dit des belles choses. Et puis si on tombe sur un verset un peu dur, comme ça, on referme et on rouvre. Et on espère que ce sera mieux la deuxième fois. On doit lire cette parole pour que l'Esprit nous transforme à travers elle, pour que par la grâce de Dieu, ça change notre manière de vivre. Je dis bien par la grâce, parce que ce n'est pas une question de légalisme. On dit, s'il faut lire la Bible pour que Dieu vous transforme absolument. Parce que la transformation, c'est l'œuvre de Dieu en nous, qui utilise sa parole pour nous façonner. La Bible, comme je l'ai dit, elle contient ce merveilleux message de l'Évangile qui transforme nos vies. En 2 Timothée 3, verset 16-17, il est dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Voilà ce que fait la parole de Dieu. Elle nous équipe, elle nous forme pour qu'on puisse faire les œuvres que Dieu nous appelle à faire. Troisièmement, lire la Bible parce que cela nous aide à mieux connaître Dieu. Je ne sais pas si vous avez été attentif quand j'ai récité, mais quelle merveille! Certaines choses qui nous sont dites sur Dieu, waouh! Moi, ça me bouleverse. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de l'apprendre par cœur, parce qu'on prend, on repasse ces vérités dans notre cœur, dans notre pensée. Quand il est dit que Dieu est comme un père qui a compassion de ses enfants, qu'il ne nous traite pas conformément à nos péchés, qui ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Waouh! C'est fort! La Bible nous aide à mieux connaître ce Dieu merveilleux. Une fois, je discutais avec une jeune, et puis elle me disait, mais j'ai l'impression que le Dieu que j'expérimente comme ça dans le groupe de jeunes ou à des soirées, c'est pas le même que celui qui est écrit dans la Bible. Et puis, j'ai dit, il y a un problème. Il y a un risque. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est de se faire un Dieu à notre image, comme nous on le veut. Mais si on reste fidèle, on apprend à connaître ce Dieu merveilleux, qui est infiniment plus grand, plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer. Quatrièmement, parce que cela nous centre sur Christ. Quand on lit la Bible, ça nous amène à Christ. Toute la Bible nous parle de Jésus, pointe vers Jésus. Et l'Ancien Testament aussi. Récemment, je discutais avec quelqu'un, il disait, mais moi, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, ils gardent l'Ancien Testament, ils devraient garder juste le Nouveau. Je dis, mais non. Parce que justement, ça nous révèle qui est ce Dieu qui, depuis le début, a prévu un plan pour nous sauver. Cinquièmement, Cela nous aide à mieux comprendre les différentes parties du texte biblique et à l'interpréter. C'est vrai qu'une des choses que j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait ma formation biblique, et d'ailleurs c'est super pour ceux qui vont à Genève se former, c'est tellement important. Et bien justement, ça m'a aidé à mieux comprendre l'ensemble, à mieux aborder des fois ces textes difficiles, ces textes des fois qu'on ne comprend pas, on dit mais j'ai cru que c'était un Dieu d'amour, et puis là, tout d'un coup, il commande de tuer toute une population. Comment ? Mais quand on comprend toute la révélation, quand on comprend qui est ce Dieu justement, et bien ça nous aide à mieux comprendre ces textes. Sixièmement, eh ben je crois que la Bible nous apprend aussi l'humilité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, quand je lis la Bible, tout d'un coup, ça me contrarie. Parce que des fois, ça vient percuter des vérités que j'ai établies ou que la société m'a dit, et moi, j'ai cru que c'était vrai. Et tout d'un coup, ça vient m'ébranler. Et des fois, ça m'en colère. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Et je me rappelle d'une fois où je lisais justement, puis vraiment, c'était un combat dans mon cœur. Je disais, mais, j'étais presque fâché contre Dieu en disant, mais pourquoi tu fais ça? Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette pensée de me dire, mais est-ce que tu te crois plus malin que Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a raison ou est-ce que c'est toi? Et en fait, j'ai réalisé que la seule chose qui me dérangeait dans ce texte, c'était mes propres présupposés. C'était ce que moi, je pensais être le mieux. Et quelque part, je m'élevais comme ça au-dessus de la Bible où je me faisais juge d'elle. Je disais, mais Dieu, pourquoi t'as pas fait comme ça? J'avais une meilleure idée que toi. Quel orgueil! Et je crois que la Bible vient justement nous humilier des fois, montrer que, eh ben non, Dieu est plus grand que nous et Dieu sait mieux que nous. Septièmement, cela nous garde de l'erreur. Quand on connaît la parole, on nous donne un roc aussi, qui nous garde des différents vents qui viennent et qui cherchent justement à nous amener vers un autre évangile, nous amener vers un autre Dieu. Et je me rappelle une fois, j'avais justement, quand j'avais commencé à apprendre ces textes par cœur, j'étais allé à une soirée comme ça et l'orateur avait pris un texte en plein un que j'étais en train d'apprendre par cœur. Et il a dit des choses et puis je me suis dit, mais c'est pas ça qu'il veut dire, ce texte. Parce que je l'avais tellement répété dans ma tête que j'avais aussi tout le contexte autour. Et en fait, là, l'orateur était juste en train de l'utiliser. Et enfin, voilà, c'était intéressant de dire, ben, quel bénéfice de connaître la parole. Huitièmement, eh ben, connaître la parole nous fortifie dans l'épreuve. En début d'année, l'année passée, j'ai eu une année un peu compliquée où j'ai eu plusieurs problèmes de santé. Et j'ai dû, en début d'année, faire une gastroscopie. Alors, pour ceux qui savent, on met un tube comme ça, on va regarder dans l'estomac. Et j'étais couché sur cette table, ils allaient commencer. Puis j'ai reçu une piqûre là, pour dormir. Et puis, ben justement, j'étais en train d'apprendre ces textes. Et puis, ben, en étant couché, eh ben, je me suis commencé à me réciter ces textes dans ma tête. Et waouh, je me souviens de ce moment comme tout d'un coup, j'avais une paix vraiment qui m'a rempli. J'étais bien. Et puis, d'ailleurs, quand je me suis réveillé, bon, j'étais un peu stone, mais j'ai dit, ah, j'ai bien dormi. L'infirmière était un peu surprise. Enfin, voilà. Mais la Bible, elle nous garde dans l'épreuve. Elle nous encourage. Connaître la Bible aussi nous aide dans la tentation. Je pense que vous connaissez cette histoire de Jésus dans le désert où le diable vient tenter Jésus. Jésus réplique avec la parole. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Des fois, quand on est tenté d'un coup de faire quelque chose, eh ben, des fois, des paroles reviennent dans notre cœur. On sait qu'on ne doit pas faire certaines choses. Et puis, ça nous aide à rester droit. Bien que l'autre jour, j'étais à un endroit et puis tout d'un coup, J'étais tenté de regarder quelque chose, et puis tout d'un coup j'ai pensé à ce que la parole de Dieu me disait. Quoi, il y avait, enfin, non, je vais être vrai avec vous, il y avait une fille qui avait des habits pas très, enfin, c'était assez serré comme ça, et tout d'un coup j'étais tenté de regarder, et puis j'ai eu cette parole de dire, mais non, si on convoite quelqu'un d'autre, c'est un adultère, Puis j'ai pensé à ma femme, j'ai dit non, je ne veux pas me laisser détourner mon regard. Mais enfin voilà, quelque chose de concret. Dixièmement, eh ben, cela nous aide et nous encourage pour encourager encourager les autres. On peut arriver avec une parole de vérité dans un moment opportun. Eh ben, quelle grâce, quelle richesse. J'ai fait d'ailleurs une formation récemment qui s'appelle le counseling biblique où justement la démarche c'est de se dire mais des fois on fait de la relation d'aide et puis on fait des choses, on essaye de se faire de guérir de certaines blessures. Et puis là, il disait, mais en fait, quelque part, la Bible, c'est ce qui nous décrit le mieux comment est un être humain et ce dont on a besoin. Et puis, c'est de justement pouvoir revenir à la Bible et puis voir notre problème et trouver des réponses à travers la parole. Voilà, j'arrive au bout. Merci pour votre patience. Mais pour conclure, je vous encourage cette semaine à prier, à prendre du temps, à demander à Dieu vraiment de vous donner cet amour pour la parole. Essayez de vous ménager un temps pour lire. Et voilà, s'il y a des textes des fois difficiles, ben, c'est l'occasion d'aller en discuter avec Philippe ou les anciens ou quelqu'un avec qui vous avez, que vous savez qu'elle connaît bien la parole. Essayez pas de vous fixer des objectifs trop ambitieux, mais lisez cette Bible pour qu'elle vous transforme, pour que Dieu, à travers elle, vous façonne. Et ne laissez pas des excuses ou des choses voler ce temps. Parce que c'est là que vous allez apprendre à connaître ce Dieu merveilleux qui est là et qui nous aime et qui a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui. Voilà, je termine, j'ai encore juste prié.